Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Yazid Arifi, candidat sur la liste citoyenne Nous sommes Pantin aux élections municipales à Pantin les 15 et 22 mars. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors première question, Yazid Arifi, est-ce que vous pouvez nous présenter votre ville de Pantin, une ville voisine de Paris qui se trouve en Seine-Saint-Denis et qui est accessible en métro ?
Absolument. Donc Pantin qui est une ville littéralement collée à Paris. Hein, ça fait partie vraiment de cette proche couronne parisienne située dans le 93, donc un département qui est connu pour avoir été le département ouvrier de l'Île-de-France pendant très longtemps. C'est une partie de cette fameuse banlieue rouge qui s'étend quelque part de Montreuil jusqu'à Aubervilliers, dans laquelle d'ailleurs l'électorat, le Parti communiste a longtemps été au pouvoir, comme dans beaucoup d'autres villes voisines. Et donc Pantin vit, comme beaucoup de villes de la couronne parisienne, un phénomène qui est lié à l'évolution de la métropole parisienne, en fait. Donc une évolution qu'on pourrait qualifier de gentrification ou d'embourgeoisement, qui consiste en un phénomène très simple, en fait. C'est que les prix, notamment de l'immobilier, sont tellement élevés sur la ville de Paris que, logiquement, en fait, les populations sont progressivement expulsées vers l'extérieur, ce qui, du coup, par ricochet, finit par impacter la population historique d'une ville qui est traditionnellement populaire, avec une grande population, une grande proportion de la population issue de l'immigration, et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation difficile, un peu mise de côté par une municipalité qui aujourd'hui a pour stratégie justement de capter cette population issue de la capitale et les entreprises qui vont avec.
Alors Yazid Arifi, on va parler de votre programme tout à l'heure. Vous avez été candidat La France Insoumise à Paris aux législatives en 2017. Pour ces municipales, vous n'êtes investi par aucun parti, vous êtes cofondateur de l'École démocratique de Paris, ancien élève d'HEC. Avec les études que vous avez menées, on aurait pu vous imaginer plutôt membre des Républicains ou de La République en Marche, plutôt qu'être à l'origine d'une liste citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours à la fois personnel et politique?
Oui, alors effectivement, il y a une forme de contradiction qui émerge quand on regarde un petit peu effectivement mon pedigree, mon CV, qui est lié au fait que, avec mon parcours scolaire notamment et le début aussi de mon parcours professionnel, je réunissais toutes les conditions sociologiques pour me retrouver plutôt à la droite de l'échiquier politique, parce que je crois encore à la dichotomie gauche-droite, hein, contrairement à un mode de pensée qui est encore assez à la mode aujourd'hui. Mais donc pour revenir à cette contradiction, effectivement, je pense que je fais partie de cette catégorie. Ça mériterait peut-être des études sociologiques plus précises, mais en fait on commence à être une proportion considérable de personnes à sortir de grandes écoles, HEC, Polytechnique, l'ESSEC, le SCP, etc., Sciences Po, et en fait à ne pas se reconnaître dans le modèle de société qui est porté par cette institution scolaire-là, qui est du coup de fait un modèle libéral, capitaliste et foncièrement antidémocratique. Et justement, moi, je m'inscris dans le mouvement qui porte le pays depuis maintenant au moins 2 ans, qui est un mouvement de citoyens qui aujourd'hui expriment une véritable défiance à l'égard de toutes les formes d'institutions et en particulier des partis politiques, et qui entendent, et je pense que c'est très légitime, reprendre leur destin en main, en construisant eux-mêmes les conditions politiques de leur pouvoir.
Alors comment s'est constituée cette liste citoyenne à Pantin ? C'est une liste inspirée du mouvement des Gilets jaunes ?
Absolument. Donc en fait, il faut savoir que sur Pantin, mais dans les mois qui ont suivi les élections présidentielles et législatives, on a vécu un moment de flottement militant lié au fait que du coup l'arrivée de Macron et le chaos technique imposé par le Parlement et le président, notamment avec la réforme du Code du travail, etc., on générait une forme du coup de flottement sur la ville. Et c'est vraiment au moment de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes qu'on a vu renaître une flamme militante sur la ville qui a vraiment pris, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres villes d'Île-de-France, un vrai mouvement de Gilets jaunes a vu le jour sur Pantin, organisé autour de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes à un moment donné. Et c'est effectivement à ce moment-là qu'on commençait à à émerger des envies en fait de contester le pouvoir alors d'un maire qui en plus est à la tête de la ville depuis 2001, qui est un élu du Parti Socialiste.
Et qui est soutenu aujourd'hui par Europe Écologie des Verts et le PRG.
Absolument, voilà. Donc en fait, on est dans une situation où, de fait, hein, Pantin est soumise à la férule d'un monarque, de fait. C'est-à-dire que c'est effectivement un maire qui règne de manière tout à fait hégémonique sur la ville, qui a été élu au premier tour en 2014 et qui jouit en plus maintenant du soutien d'une force politique Europe Écologie Les Verts qui est créditée quand même d'un pourcentage non négligeable de voix au premier tour le 15 mars. Donc nous, face à ça, on pense que la solution est non pas de faire la soupe au logo, donc de rassembler des organisations politiques qui se diraient militantes pour une politique alternative, mais vraiment d'appeler à une mobilisation des citoyens, donc des gens qui éventuellement n'ont même aucune expérience militante, de militants syndicalistes, associatifs, etc., pour contester en fait cette mainmise sur le pouvoir sur la ville.
Alors Yazid Arifi, sur la question du logement, de l'immobilier, vous dénoncez la gentrification et la spéculation. Concrètement, votre ville devient inaccessible aux foyers les plus modestes. Vous pouvez nous donner des exemples ?
Un exemple très très simple. Moi, je vis dans un appartement dans lequel j'habite depuis avril 2018. Donc, nous sommes en janvier 2020. En l'espace du coup d'un peu moins de 2 ans, le prix de l'appartement dans lequel je vis a augmenté de pratiquement 20%, si on se fie aux valorisations qui sont faites par les différentes agences. Ce qui indique donc en fait une tendance qui est celle d'une explosion du prix de l'immobilier. Et évidemment, le coût de l'achat est directement corrélé à celui de la location.
Ce qu'on a connu par exemple à Paris il y a quelques années dans des arrondissements comme le 18e arrondissement qui ont pris beaucoup de valeur, des appartements qui sont devenus beaucoup plus chers, c'est en train de se passer actuellement à Pantin.
Oui, en fait on a donc un maire qui qualifie notre ville de petit Brooklyn en faisant référence à ce quartier de New York qui est aussi connu pour avoir été un cas d'école de la gentrification, aujourd'hui tout à fait inaccessible aux classes populaires qui l'ont habité historiquement. Donc Pantin, petit Brooklyn, nous on a tendance à le qualifier aussi de 21e arrondissement de Paris, comme je pense certaines autres villes du 93 pourraient le dire aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, la tendance qui est à l'œuvre aujourd'hui sur Pantin est rigoureusement la même que celle qu'on a pu vivre dans le 19e. Et la population d'ailleurs commence à ressembler quand même étrangement à...
Mais finalement, est-ce que ça n'est pas le vent de l'histoire ? C'est-à-dire que Paris étant de plus en plus cher, eh bien les gens vont vers la petite couronne. Comment on peut lutter véritablement contre des agences immobilières qui ont vraiment beaucoup de moyens et puis contre des gens qui font monter les prix ?
Eh bien justement, nous on pense sur Pantin, donc avec le collectif Nous sommes Pantin, nous pensons que ce vent de l'histoire-là n'est pas du tout lié à des lois naturelles, au même titre que nous ne pensons pas que la mondialisation, hein, pour parler d'un autre sujet, soit le fruit de lois naturelles ou de la désindustrialisation, etc. Tous ces phénomènes et toutes ces tendances sont le fruit de choix politiques délibérés, et donc en l'occurrence, les choix politiques qui ont été faits pour la ville de Paris sont les choix de la métropolisation. C'est-à-dire qu'en fait, le territoire parisien... doit pouvoir concurrencer les territoires new-yorkais, de Los Angeles, de Tokyo, etc. et rentrer dans une forme comme ça de surenchère, avec pour objectif du coup de faire de Paris et des communes autour une espèce de grande métropole dans laquelle viendrait du coup s'installer l'essentiel de la classe moyenne supérieure du pays, en fait la classe moyenne intellectuelle qui viendrait du coup s'installer dans ces villes-là. Nous pensons qu'il est tout à fait envisageable de construire une ville qui soit propre, qui soit belle, qui soit habitable en famille, sans pour autant que cela ait une conséquence sur le coût de l'immobilier, sur l'accès aux services publics. Nous entendons construire la ville avec les Pantinois historiques, sans pour autant exclure une population qui serait intéressée par s'installer sur la ville.
Yazid Arifi, vous affirmez que les quartiers des Quatre Chemins, des Courtilières et des Pommiers à Pantin ont été abandonnés par le maire actuel. En quoi ont-ils été abandonnés ?
En fait, c'est intéressant. Il suffit juste de s'intéresser à la stratégie de communication de la mairie sur les réseaux sociaux, dans le journal officiel, etc. Il est intéressant de constater que les quartiers qui sont mis en évidence, ne serait-ce que d'un point de vue photographique, sont les quartiers du canal, et autour en fait du canal, donc la partie plutôt entre guillemets embourgeoisée de la ville. Et alors au-delà de cet aspect-là qui reste anecdotique, il suffit juste de traverser par exemple la rue Hoche, donc de passer du Pantin plutôt on va dire, en cours d'embourgeoisement vers le pantin plus populaire, donc aller vers la mairie et derrière, donc les quatre chemins. Et on constate qu'effectivement, le niveau de propreté de la rue, par exemple, n'est pas du tout le même. Les populations qui sont en difficulté économique et financière sont du coup de fait marginalisées dans ce quartier-là qui est à la limite avec une autre ville. On a un accès aux services publics qui est beaucoup plus compliqué. Et plus largement, une population qui aujourd'hui se sent totalement délaissée en fait par le maire. Et par du coup aussi l'intercommunalité et plus largement les pouvoirs publics qui ont laissé cette partie de la ville totalement à l'abandon.
Alors sur un de vos tracts, Yazid Harifi, vous affirmez « Nous sommes le nombre, le pouvoir et la richesse de cette ville ». En creux, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire qu'avec l'abstention, c'est finalement une minorité qui décide au sein de la ville ?
Absolument. Quand on constate que par exemple un maire est capable sur une ville de 55 000 personnes en 2014 de gagner l'élection au premier tour avec un peu plus de 5400 voix, sensiblement 10% de la population de la ville, on est quand même en droit de s'interroger. Et effectivement, on constate que structurellement, sur une élection comme la municipale, sur Pantin, on a un taux de participation à l'élection qui est à peu près de 50%, ce qui est quand même incroyable, parce que du coup, ça indique quand même en creux que le destin de la ville est décidé par des personnes qui se réclament d'une légitimité qu'ils n'ont pas.
Donc, et il se trouve en plus, l'enjeu pour vous, ça va être de faire voter les abstentionnistes.
Voilà, parce que justement, il se trouve que les populations qui ne se manifestent pas le jour de l'élection et qui ne s'intéressent pas à la problématique électorale, ce que je comprends, hein, vu ce qui se passe depuis maintenant plusieurs décennies dans le pays, sont les personnes. Donc les personnes qui ne se manifestent pas justement ce jour-là sont celles qui, a priori, auraient le plus besoin de s'exprimer et d'être représenté dans les institutions du pouvoir municipal. Alors, donc c'est ça notre enjeu aujourd'hui, c'est de mobiliser cette population pour avoir un véritable poids sur le destin de la ville.
Yazid Harifi, puisque vous n'êtes pas soutenu par un parti politique lors de ces municipales, c'est une liste citoyenne, je voudrais vous demander comment on se présente, comment on se prépare à un tel scrutin, comment on finance la campagne, est-ce que les candidats doivent engager des frais ?
Effectivement, le gros inconvénient de ne pas être soutenu par une force politique d'envergure nationale, c'est qu'on n'a pas de financement. On n'a pas de financement, on n'a pas de soutien logistique, on n'a rien. Et c'est là aussi où on mesure la difficulté de s'impliquer en politique aujourd'hui pour des gens qui ont des métiers, des familles, des vies personnelles, parce qu'effectivement, ça implique de gros sacrifices personnels. Typiquement, là, sur la question du financement, ça va passer probablement par des participations personnelles des personnes qui sont sur la liste et de leur soutien. Et si on voulait résumer un petit peu la manière dont notre liste va se construire, ça serait probablement l'expression système D, quoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller imprimer des tracts et des affiches avec nos imprimantes personnelles. On va faire circuler des caisses le jour où on va faire des déambulations dans la ville. On va faire appel du coup à nos familles, à nos proches pour le financement. Mais il est certain que on n'aura pas les moyens financiers pour concurrencer des grandes forces politiques et notamment le maire en place aujourd'hui.
Jusqu'ici, on n'a jamais vu une liste citoyenne remporter une élection municipale. Qu'est-ce qui fait que vous vous lancez dans un tel projet alors que vous savez que ça va être très difficile de gagner ?
En fait, on se lance dans ce projet parce qu'on a on a perçu la sensibilité de la population sur les derniers mois à la mobilisation populaire citoyenne nationale qui s'est mise en place en fait dès la fin 2018 avec les gilets jaunes. On voit des personnes pas spécialement militantes, on voit des professeurs, on voit des fonctionnaires territoriaux, on voit des commerçants, toutes sortes de personnes qui ne sont pas spécialement en fait sensibles au combat politique professionnel, s'intéresser aujourd'hui à ce que voilà, notamment monsieur Emmanuel Macron fait du pays. Et on se dit que ça serait quand même dommage que la mobilisation populaire assez conséquente que connaît la ville ne se traduise pas par du coup un engagement citoyen à obtenir la mairie. Donc c'est ça en fait que nous on cherche à construire aujourd'hui.
Yazid Harifi, vous affirmez que votre liste est une alternative démocratique, écologique et sociale à l'équipe actuelle. Le maire sortant, qui brigue un quatrième mandat, affirme que sa liste pour Pantin reposera sur trois piliers. Le social, l'écologie et la citoyenneté. Finalement, sur les objectifs, vous êtes d'accord ?
Alors, sur la question de la citoyenneté, moi, du coup, j'invite juste au constat suivant. C'est-à-dire que quand on en est à 19 ans de mandat et que on part sur une candidature pour aller jusqu'à, du coup, 2026, ce qui voudrait dire du coup 25 ans de mandat. Je m'interroge en fait sur la nature de l'exercice de la citoyenneté qui sous-tend de telles pratiques.
Mais la loi ne lui interdit pas de se représenter.
Pas du tout. On est bien d'accord là-dessus.
Le cumul des mandats dans le temps est tout à fait légal.
Tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même au niveau national, je suis un ardent militant de aller encore plus loin que la loi sur le non-cumul des mandats qui a été votée en 2014. Il faudrait vraiment empêcher du coup le cumul des mandats au niveau local, parce que ça c'est encore possible. Typiquement, on a un maire qui cumule des mandats aussi au niveau de l'intercommunalité, au niveau de l'arrondissement, du département. Et ça, c'est tout à fait possible en fait, la loi ne l'empêche pas. Donc là c'est pareil, c'est une pratique de la politique que nous dénonçons, et sans dire que le fait de se présenter à un quatrième mandat soit interdit, on peut tout à fait s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui, des personnes qui restent au pouvoir dans une ville 10, 15, 20, 30 ans, c'est pas du tout compatible avec l'exercice de la démocratie que nous envisageons, nous autres citoyens de la base.
Alors Yazid Arifi, si votre liste est élue, de quelle manière dirigerez-vous la ville ? Actuellement, vous êtes membre d'une liste citoyenne, vous n'êtes pas tête de liste, il n'y a pas de tête de liste, mais il faudra quand même un maire et des adjoints. Il y aura bien un responsable et ce sera le maire.
Absolument. On entreprend de s'engager sur une ligne de crête qui consiste à respecter la loi, donc à avoir une tête de liste au sens administratif du terme, qui soit responsable de la liste, et potentiellement du coup un maire. Donc ça effectivement c'est la loi, et donc effectivement l'idée c'est pas de ne pas la respecter. En revanche, il est certain que la façon dont nous envisageons de désigner la tête de liste et derrière de fonctionner avec le conseil municipal et la mairie serait très différente de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un maire qui utilise le conseil municipal comme relativement une caisse d'enregistrement de ses désirs, un peu d'ailleurs comme ce qui se passe au niveau national. Et des décisions qui se prennent en vase clos, c'est-à-dire qu'en fait, on a un maire qui est entouré de quelques conseillers, donc ils prennent des décisions qui s'imposent aux citoyens.
J'ai vu tout de même qu'il y a eu des budgets participatifs à Pantin.
Oui, mais on parle de très petits montants, c'est-à-dire que c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Par rapport au total des choix budgétaires de la ville, on est sur 500 000 euros sur une ville qui gère un budget qui est de l'ordre de 180 millions.
Vous voyez ? Vous avez été candidat sur une liste La France Insoumise en 2017. Pourquoi ne pas être candidat à La France Insoumise lors de cette élection municipale ?
En fait, la perception que nous avons eue sur la ville, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, la soupe aux étiquettes est dépassée. Et qu'en fait, beaucoup de militants qui s'étaient engagés avec enthousiasme dans la campagne Nous sommes Pantin se seraient mis en retrait si on avait fait le choix de s'associer à des organisations partidaires qui, en fait, malheureusement, mais après je le comprends, ont aussi tendance à vouloir du coup chapeauter en général la liste, à du coup définir les grands axes de la campagne pour ensuite intégrer des citoyens qui malheureusement sont réduits à un rôle qui est celui de l'exécution ou de la figuration, en fait, malheureusement. Hein.
Alors, et même coup, si vous avez des désaccords avec le maire socialiste, est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il critique l'État pour rupture d'égalité devant le service public ? La Seine-Saint-Denis est-elle moins bien traitée en termes de service public que d'autres départements ?
Là-dessus, on partage entièrement le constat qui est fait par le maire et par beaucoup de citoyens du 93. C'est-à-dire qu'effectivement, on vit une situation qui est quand même dramatique d'un point de vue social et économique. C'est qu'en fait, l'arrondissement le plus riche du pays et l'arrondissement, un des arrondissements les plus pauvres, sont voisins.
Et le département de
la Seine-Saint-Denis et le département de Paris.
Et les Hauts-de-Seine aussi à côté.
Et les Hauts-de-Seine, effectivement, à côté, qui sont extrêmement riches. Et là encore, on n'a pas affaire à des lois de la nature. C'est des choix politiques délibérés qui ont consisté à, entre guillemets, entasser la classe ouvrière et les différentes vagues migratoires issues de l'immigration postcoloniale dans ce département-là, en faisant en sorte justement que l'accès aux services publics et aux droits fondamentaux y soit moindre par rapport à d'autres départements.
Précisément sur les quartiers qu'on a évoqués tout à l'heure, les quatre chemins, les Courtilières, les Pommiers à Pantin. Si vous étiez élu le 22 mars au deuxième tour, qu'est-ce que vous feriez pour aider les habitants de ces quartiers ?
Bah, on commencerait sans doute par aller faire quelques conseils de quartier sur place, hein, parler avec les gens, les inviter à venir, et également ceux qui n'ont pas la citoyenneté française. Ça c'est important, parce que du coup sur Pantin, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas françaises, voire qui ne parlent pas le français. C'est un état de fait. Maintenant, ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et du coup, nous, je pense que une éventuelle victoire de notre liste au second tour de la municipale serait forcément, enfin, serait suivie par une ébullition en fait populaire et une mobilisation sans précédent de l'intelligence collective citoyenne pour identifier des solutions immédiates déjà pour les problèmes les plus concrets. Donc je parlais de la propreté tout à l'heure, de la pollution, et après il s'agirait de construire un véritable front citoyen pour régler les problèmes qui sont plus profonds, plus problématiques, notamment le logement insalubre, qui est souvent le fait de bailleurs qui sont assez peu scrupuleux et qui en fait se résout par des procédures judiciaires qui prennent du temps, etc. Mais il est certain que en fait les gens doivent s'enlever de la tête l'idée qu'il y a des sauveurs quelque part qui sont là pour régler leurs problèmes pour eux. Et donc une éventuelle victoire de notre liste, elle s'accompagnerait nécessairement d'une mobilisation citoyenne d'ampleur pour qu'on règle les problèmes ensemble, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Merci Yazid Harifi. Je rappelle que vous êtes candidat sur la liste citoyenne Nous sommes Pantin aux élections municipales à Pantin les 15 et 22 mars. Bonsoir.
Merci.